Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mardi 16 mai, bonne journée, bienvenue au 98.5. Pluie intermittente, c'est déjà commencé, de faibles averses dans le Grand Montréal avec des vents de 20 à 40 km/h tout au cours de la journée. On a 13 degrés, ça va grimper jusqu'à 17, mais rapidement au cours de l'après-midi. On devrait se retrouver avec 8-9 degrés, toujours de la pluie. Au total, c'est environ une dizaine de millimètres de pluie. Un dégagement va se faire en soirée. Demain, généralement ensoleillé, mais 11 degrés. Et je vous préviens tout de suite, les nuits seront fraîches en ce début de semaine. La nuit prochaine, 3 degrés. La nuit de mercredi à jeudi, 2 degrés. Mais au moins, on s'en va vers du soleil et plus de chaleur. Jeudi, c'est du soleil 16. Vendredi, c'est du soleil 24. Et pour l'instant, samedi, on prévoit du soleil et 27 degrés. Jetons un coup d'œil aussi sur la situation des feux de forêt en Alberta. Ça demeure extrêmement préoccupant. On sait que les Forces armées canadiennes, à la demande du gouvernement albertain, se sont déployées. Hier, on indiquait que des militaires de d'autres pays pourraient également participer à des manœuvres. On pense à des militaires et surtout des pompiers, probablement, qu'on pourrait dépêcher, là, qui viennent peut-être même de l'Australie, des pompiers des autres provinces, des pompiers américains. Alors, tout ça fait partie des scénarios. C'est le ministre Bill Blair qui a apporté ces précisions. Des gens de Nouvelle-Zélande également. Donc, ça veut dire qu'on en a pour un bout de temps. Jusqu'à maintenant, on est rendu grosso modo à 20 000 personnes d'évacuées, 90 feux de forêt, dont 23 demeurent hors de contrôle. Et en raison des vents et de l'absence de pluie, tout indique que le pire n'est pas passé et que ça va durer encore pendant un certain temps. Puisqu'on parle d'incendie, le Globe and Mail, depuis hier, nous a appris des choses étonnantes concernant le service des incendies de Montréal. On se souvient de cet incendie terrible qui a coûté la vie à 7 personnes. Il y a une enquête du coroner qui aura lieu. 9 personnes ont été blessées. On apprend que de façon assez discrète, pour ne pas dire cachée, le service des incendies de Montréal avait imposé au fil des ans un moratoire sur le suivi des inspections des sorties d'urgence, des aménagements faits dans des immeubles. Et après l'incendie, on a comme redémarré la machine, évidemment de façon très discrète. Alors, c'est un moratoire qui remonte au 26 octobre 2018, selon un mémo obtenu par le Globe and Mail. Et dans le fond, ce que ça faisait, c'est que quand on envoyait des pompiers inspecter, puis que les pompiers faisaient un rapport en disant on pense qu'il y a des problèmes dans tel immeuble, que l'aménagement est pas adéquat, pas sécuritaire, que les sorties de secours sont soit inexistantes, que les systèmes sont déficients. Donc, il devait y avoir un suivi. Et semble-t-il que pour des raisons de manque de personnel, manque de formation, on mettait ça sur la glace minimalement pour un an. Donc, tu avais beau avoir un suivi, en fait, un constat terrain, il n'y avait pas véritablement de suivi. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des pompiers qui disaient « Hey, je pense que dans tel immeuble, il y a un problème », ben malheureusement, ça demeurait lettre morte. Alors, qu'est-ce que ces pompiers pouvaient découvrir? Ben, par exemple, des corridors qui mènent nulle part, pas de sortie de secours. Un nombre insuffisant de sorties de secours. L'absence d'appareils de détection de flammes, de chaleur, de fumée. Et tout ça là tombait sur le bureau et malheureusement, il n'y avait pas de suivi. Alors ça, c'est Globe and Mail qui nous apprend ça. On a fait une demande d'entrevue au service des incendies de Montréal. Bien sûr, ils sont pas disponibles. Et là, ils nous sortent la cassette que la sécurité des citoyens est une priorité, blablabla. Et qu'on poursuit la mise en œuvre de la vision en matière de prévention des incendies. telles que communiquées au personnel, c'est du grand n'importe quoi. Et malheureusement, quand on se pousse puis qu'on répond pas aux questions, on peut pas nous empêcher de penser que ce qui est écrit dans le Globe and Mail est plus que vrai. T'sais, ça se termine en disant que plusieurs programmes sont en révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la Ville de Montréal, pendant des années, on n'a pas fait le suivi adéquat sur l'état des bâtiments. Et même s'il y avait une analyse terrain, ça tombait dans des boîtes, puis il n'y avait absolument aucune suite. Et je suis obligé de penser que c'est assez vrai quand le service des incendies se cache ce matin pour venir répondre aux questions. Et puisqu'on parle de la Ville de Montréal, on a eu le rapport hier de la vérificatrice générale, Michèle Galipeau, qui termine son mandat de 7 ans. Elle fait des constats. Bon, les bâtiments du patrimoine de Montréal qui sont plus ou moins entretenus. Mais il y a 2-3 choses que j'ai remarquées, notamment au sujet des subventions aux organismes sans but lucratif. On comprend qu'il faut soutenir et que ces organisations souvent occupent un espace que l'État a négligé et pour beaucoup moins cher que si c'était des services publics là, bien encadrés. Mais il y a quand même une reddition de compte à faire. Et ce que la vérificatrice dit, c'est qu'à toutes les étapes du processus, il n'y a comme pas de vérif. T'sais, pourquoi tel organisme? Pourquoi ce montant-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Est-ce qu'on est bien sûr que c'est dépensé correctement? Donc, nous sommes préoccupés, dit la vérificatrice, de voir finalement qu'il n'y a pas un suivi rigoureux qui est fait dans ces cas-là. Également, il y a une protestation qui a eu lieu hier de citoyens qui veulent préserver le parc Canin à Outremont. C'est qu'on doit procéder à des travaux de réfection du viaduc Rockland. C'est un parc Canin là, largement fréquenté, bien aménagé. Et là, on a peur que ça disparaisse. Et là, la ville, dit oui, non, on va peut-être faire une espèce de... On va revoir l'aménagement du territoire, mais les travaux, faut les faire, ce qui est vrai, là. Mais est-ce qu'on fait confiance à la ville de préserver cet espace pour les chiens? Alors, il y avait manifestation, puis il y a beaucoup de gens qui ont des doutes là-dessus. Et puis, l'opération des branches, ben il y en a encore pour plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on a fini par dégager les rues. Et là, il faut ramasser, puis c'est sûr que dans les parcs, les dommages sont quand même importants, puis là, ça prend de l'équipement lourd. Mais je rappelle quand même qu'au début, il y a eu, malgré le spin officiel de la ville, là, disons des retards dus à la lourdeur. Quand ça prend une semaine à Outremont pour que la ville s'entende avec le syndicat pour commencer à ramasser des branches, on peut s'interroger sur l'efficacité de la machine. Tu sais, tu travailles pour dans les parcs, tu travailles pour l'arrondissement, t'es un col bleu, as-tu le droit de faire ci, as-tu le droit de faire ça? Hey. Et puisqu'on vous parle de ça, dernier volet municipal, ça concerne les ordures, qui est un sujet, je le sais, qui polarise. Alors, la ville dit, vous avez les détails dans le Journal de Montréal, les gens font du recyclage, font du compost, ce qui fait que les matières traditionnelles, les déchets de base, là, ben il y en a moins. Sauf que pénurie de main-d'œuvre, augmentation des coûts, l'inflation, les factures pour les arrondissements explosent. Conséquence de ça, ben les villes sont à revoir les plans pour les prochaines années. Donc, dans certains arrondissements, on pourrait procéder à la collecte des ordures aux 2 semaines, ce qui est déjà le cas là, à bien des endroits, et même à certains endroits, 3 semaines. Là, on parle en ville. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on avait cette conseillère municipale de Parc Extension qui parlait des vidanges qui traînent sur la rue, la prolifération des rats. Puis là, je veux pas tomber dans la caricature ce matin, mais il en demeure pas moins que ça va être un enjeu pareil. C'est vrai que le nombre de rats explose parce qu'on a décidé de les laisser vivre puis de les laisser se multiplier. Là, on fait face à cette réalité. Puis on a comme amoncellement d'ordures à certains endroits. C'est pas toujours chic-chic là, dans les rues de Montréal. Puis on le sait que c'est une facture qui est élevée. Ça coûte extrêmement cher. Revenons sur le dossier de Tristan Péloquin sur ce dépotoir toxique à Kanesetake. Je résume, 2 frères, les frères Gabriel, qui sont propriétaires d'une entreprise, entre guillemets, de recyclage, qui ont des antécédents criminels importants depuis la crise autochtone. Donc, opère ce site et ce qu'on constate quand on va sur place, comme Péloquin a fait, puis des drones, il y a de l'écoulement de produits dans des ruisseaux, dans un premier, dans un deuxième, puis finalement, ça s'en va dans le lac des Deux-Montagnes. Ce matin, il ajoute que depuis 2019, il y a eu 3 rapports du ministère de l'Environnement qui font des signalements d'incendie dans ce centre de tri illégal, puis des pompiers qui se sont vus bloquer l'accès. Dans certains cas, ça a été même, je dirais, presque à la confrontation. Et on a remarqué donc, et on a détecté ces incendies, ce qui ajoute là aux émanations ou aux déversements de produits toxiques. Ce que ça montre, c'est encore une fois un territoire où il est impossible de faire respecter les normes minimales. Hier, le ministre Benoît Charrette a dit que ça va coûter 100 millions. Ça, c'est au bas mot, là. On comprend que c'est un chiffre. Mais faut que le fédéral fasse sa part, parce que la question des Premières Nations, c'est dans le camp du fédéral. Et c'est le ministre Mark Miller qui est le responsable. C'est le ministre parfait de Justin Trudeau. C'est un homme bienveillant, ouvert sur tout, fermé sur rien, aucun regard critique, et il est le grand gestionnaire de cette question. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la communauté est divisée. Je parlais avec le chef Simon, là, qui a été réinstallé au conseil municipal. Parce que vous avez des clans. Les Bonspé, les Gabriel, vous avez le chef Simon, puis tout le monde comme ça est dans un univers d'intimidation puis de guerre de pouvoir. Et tout ce qui est de l'extérieur peut pas intervenir. Donc, comment le fédéral va régler ça? Comment le fédéral va s'assurer qu'on va réhabiliter le site en question? C'est un dépotoir toxique à ciel ouvert. Ce serait ailleurs, il y aurait intervention immédiate. Mais là, évidemment, on marche sur les œufs et on a peur de provoquer un incident. Lors des infirmiers et infirmières du Québec, un taux d'échec encore spectaculaire pour ce qui est de l'examen. Là, ça veut dire que grosso modo, tu as un étudiant, une étudiante sur deux qui échoue. OK? À peu près, là. C'est 53% de réussite. Donc, ça veut dire qu'il y avait quoi? 2100 infirmières qui vont devoir passer un nouvel examen. Parce que sinon, elles ne peuvent pas pratiquer comme infirmières. Là, ça fait la deuxième fois. On va juste rappeler les faits. Le président de l'Ordre nous a dit, l'examen n'est pas un problème, c'est la formation, mais on va changer notre examen pour 2024. Je rappelle qu'il y avait eu quand même une enquête qui avait été faite après la vague d'échecs. Et maître André Gariépy avait conclu que la validité de l'examen était remise en question. Puis on l'avait reçu au micro et il disait que c'était plusieurs éléments, la formulation des questions, bref, qu'il y avait un problème avec l'examen. Puis l'Ordre s'était défendu de ça. Puis là, ce que vous entendez en coulisses, vous savez c'est quoi là? C'est que l'Ordre pousse pour que les infirmiers et infirmières aient cherché un bac. La Fédération du collégial dit, regardez, là, ils sont en train de montrer aux infirmières qu'elles sont pas bonnes si elles ont une formation collégiale, puis il faut aller chercher une formation spécialisée. Est-ce que toutes les infirmières ont besoin de cette formation? Maudite bonne question. Mais ça fait encore, donc, un paquet d'infirmières qui retardent leur entrée sur le marché du travail. Puis, entre-temps, il semble que Québec va annoncer aujourd'hui un nouveau programme pour recruter 5000 préposés aux bénéficiaires. On reprend l'initiative qu'on a connue durant la pandémie. Et c'est le Journal de Montréal qui nous apprend ça ce matin, ce qui veut dire en gros qu'on va faire passer les bourses de 9200 à 12000. Et on a besoin d'engagement, formation rapide et déploiement dans le réseau. Est-ce que ça va donner des résultats? Il y en a combien qui restent? Plus d'un an? C'est une maudite bonne question. Il y avait eu des chiffres préliminaires. Mais ça fait un certain temps. Rapidement aussi, dans The Gazette ce matin, on nous donne des exemples assez troublants dans les salles d'urgence. Cette fois, c'est l'hôpital Douglas, c'est Aaron Derfeld qui met en lumière des patients en psychiatrie, mais on n'a pas de lit pour eux à Douglas. Ils couchent sur le sol avec une couverte et un matelas, quand on est chanceux. Et c'est une unité où il y a 6 lits c'est toujours plein. Et le temps de séjour est de 66 heures à l'occasion. 66 heures couchées à terre. Et Derfel met en lumière des recommandations faites par l'équivalent du Collège des médecins aux États-Unis, là, qui dit, c'est pas normal qu'un patient soit aussi longtemps dans des unités d'urgence comme ça. Mais dans le cas des gens qui sont là pour un problème psychiatrique, ça peut les déstabiliser complètement, là. C'est pas juste une souffrance physique, là. Le fait d'être à terre comme ça, tu sais, faire dormir le monde à terre dans des hôpitaux, c'est assez spécial. Dans deux gazettes, vous allez retrouver les détails de ça. Et aussi, il y a cette histoire de Revenu Canada dans le Journal de Montréal. Ils se sont trompés. Ils ont fait un paiement d'à peu près 5 millions à un propriétaire d'un atelier de carrosserie des Laurentides, un gars de Saint-Lin. Lui, il se ramasse, là, puis il y a toutes sortes de manœuvres, je n'irai pas dans le détail, mais en gros, il reçoit 5 millions. Il fait des transactions immobilières. Puis finalement, on apprend que un homme qui est accusé d'avoir commandité le meurtre ou une tentative de meurtre, ça s'est soldé comme ça, là, sur un avocat de Boucherville, c'est lui qui a finalement acheté le condo. Puis là, Revenu Canada a l'air un peu niaiseux, puis il tente de récupérer l'argent en question. Comment un atelier de carrosserie de Saint-Lin peut ramasser 5 millions? Voilà la grande question. Et vous vous souvenez peut-être de Isabelle, cette femme dont l'histoire a été racontée par Patrick Lagacé, qui avait découvert que le père de ses 3 enfants en avait agressé 2. Il y a eu enquête, plainte, etc. Et monsieur voulait garder, puis il était condamné, là, et monsieur voulait garder son autorité parentale. Et c'était à la mère de faire la démonstration. Et on apprend ce matin dans la chronique de Patrick que le ministre Jolin Barrette s'engage justement à modifier les procédures et ce sera à l'agresseur de convaincre un tribunal qu'il ne mérite pas de perdre son autorité parentale. C'est le renversement du fardeau. Puis d'ailleurs, au fédéral, il y a un projet de loi qui va être déposé par le ministre Lametti. Et c'est aussi un renversement de fardeau, c'est ce qu'on croit comprendre. Ça va être de dire, quand on t'arrête puis tu veux sortir, fais-moi la preuve que t'es pas dangereux. C'est pas à moi à prouver que tu l'es. Toi, fais-moi la démonstration que t'as le droit de sortir et que t'es pas une menace pour la société.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'Essentiel de Paul Arcan.
Merci beaucoup. Le Globe and Mail nous apprend qu'à Montréal, pendant des années, on a eu un moratoire sur le suivi des rapports d'inspection au service des incendies. Donc, pendant des années, alors que des inspecteurs pouvaient noter des anomalies, des problèmes mettant en danger la sécurité des occupants de ces immeubles, c'était comme placé sur la glace. Et donc, on n'a pas fait de correctif. On a réactivé en douce, dit le Globe and Mail, la procédure qui était en vigueur avant ce moratoire, tout de suite après l'incendie qui a fait, on le sait, 7 morts et 9 blessés dans le Vieux-Montréal. Frédéric Xavier Duhamel est avec nous. Il est journaliste au Globe and Mail. Monsieur Duhamel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être nous dire d'abord, en gros, là, en quoi consistait ce moratoire?
Oui, donc, en octobre 2018, le Service de sécurité incendie de Montréal a institué ce moratoire sur ce qu'ils appellent les demandes d'expertise liées aux moyens d'évacuation. Donc, des choses comme la vérification de corridors en cul-de-sac ou d'un manque de sortie de secours à certains étages, ce qui était des problèmes qui avaient été notés là, dès 2009 dans l'immeuble du Vieux-Montréal qui a brûlé. Et puis, c'est le moratoire a été cité comme une raison pour décliner une demande d'expertise qui avait été demandée par une inspectrice en 2018 et donc elle qui a été refusée en 2021. quelques années là, avant la catastrophe.
Mais ça veut dire que, si je prends une image, là, il y a des inspecteurs ou inspectrices qui se rendaient sur place, qui constataient, comme dans le cas du bâtiment où il y a eu l'incendie, des lacunes de sécurité, donc des corridors qui n'étaient pas accessibles, ou bref, il y avait un problème, et que ça se rendait au service des incendies, mais qu'il n'y avait pas de suivi réel qui se faisait.
Absolument, c'est ce que ça veut dire. Il y a également une suspension de l'application d'autres mesures de rehaussement des systèmes d'alarme qui a été mise en place en 2021 et peut-être avant, d'après les documents que j'ai pu consulter, les mémos internes que j'ai pu consulter. Ça, c'est moins clair. Évidemment, la ville n'a répondu à aucune question, donc il y a beaucoup de flou qui demeure, mais le rehaussement du système d'alarme incendie était également un problème qui avait été noté dans l'immeuble du Vieux-Montréal et qui ne semblait pas avoir été réglé au moment de l'incendie.
Et ça veut dire que le propriétaire, comme les autres propriétaires, pouvait se faire dire il y a un problème, mais par la suite, ne faire aucun correctif, ne faire aucun travaux, sans se faire trop déranger, là.
Il semble que ce soit le cas. Cependant, je dois dire que le service de sécurité incendie de Montréal n'était pas les seuls à avoir été sur le cas. La RBQ a également été mise au courant par une inspectrice du service de sécurité incendie de Montréal en 2011. Je sais qu'ils ont envoyé un avis de correction au propriétaire en 2013. Je sais aussi que les corrections n'avaient toujours pas été faites en 2018. Je ne sais pas si la RBQ a décidé de prendre des actions par la suite, puisque la RBQ a refusé de partager quelques documents que ce soit.
Et là, ce que vous nous dites, c'est que tout de suite après l'incendie, on a discrètement levé le moratoire pour revenir aux procédures d'avant.
Absolument. Il semble qu'il y avait peut-être des problèmes dans les procédures avant qui ont mené au moratoire, mais effectivement, là, dès le 3 avril, on faisait directement référence dans un mémo interne que j'ai obtenu à l'incendie du 16 mars là, pour dire il va falloir reprendre les inspections et noter les problèmes liés aux moyens d'évacuation, les problèmes liés au système d'alarme. Et puis, on va former les inspecteurs, on va former le personnel afin qu'ils puissent noter les non-conformités. Donc, de toute évidence, ça a pris le feu pour qu'on lève le moratoire là, presque 5 ans plus tard.
Merci beaucoup, M. Duhamel. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Frédéric-Xavier Duhamel est journaliste au Globe and Mail. C'est un éclairage important. Et on a demandé à la direction du service des incendies de Montréal de répondre à nos questions. La réponse est non. Ils nous ont pondu un communiqué qui veut rien dire. Communiqué où on nous explique que le chef est pas disponible, quand même, faut le faire. Et que là, on nous dit que la sécurité du citoyen est au cœur des priorités, évidemment, et qu'on poursuit la mise en œuvre de sa vision en matière de prévention en incendie, que le plan prévoit la création d'un bureau de l'analyse des incendies, puis qu'en terminant, plusieurs programmes sont en révision. Vous comprenez, là, quand je dis rien dire, ben c'est ça. Ce qui nous permet de croire que ce que M. Duhamel vient de nous raconter est tout à fait vrai. Pendant des années, parce qu'on manquait de personnel, parce qu'on n'avait pas des gens assez formés, on a laissé des propriétaires faire à peu près ce qu'ils voulaient avec leur logement. Et là, arrive ce terrible incendie dans le Vieux-Montréal. Tout de suite, on réactive l'affaire qui était en dormance depuis malheureusement plusieurs années, depuis 2018. Mais il y a quelque chose de pathétique que le service des incendies de Montréal soit pas capable de répondre aux questions. C'est un organisme public. Il nous envoie à 10 heures le soir un communiqué insignifiant qui ne veut rien dire. C'est pas très, très convaincant. Maintenant, on revient sur la situation à Kanisetake, cette enquête de Tristan Péloquin qui concerne d'abord la présence d'un dépotoir toxique qui contamine ruisseaux et qui se déverse dans le lac des Deux-Montagnes. On apprend que la décontamination pourrait coûter jusqu'à 100 millions et probablement plus. Tout ça avec en toile de fond des conflits, des citoyens qui se sentent intimidés, la présence des frères Gabriel depuis longtemps qui sont propriétaires de ce dépotoir, des pompiers qui se font bloquer l'accès. Autrement dit, c'est extrêmement houleux. J'en parle avec un membre du conseil de bande de Kanesetake qui avait été expulsé, qui a pu finalement réintégrer son poste. C'est le chef Serge Simon. Chef Simon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arquin.
Très content de vous parler. J'aimerais que vous puissiez me décrire, pour le bénéfice des auditeurs ce matin, la situation, là, des tensions, des clans qui existent à Kanesetake.
Les tensions existent vraiment depuis la crise Oka. On a vu, ça s'est accru depuis une trentaine d'années. Les factions à l'intérieur de la communauté ont de l'air à s'accroître avec chaque enjeu qui est présenté à notre conseil. Et puis, ça n'a pas de l'air à lâcher.
Quand on parle de tension, là, si on avait à résumer, il y a la famille Bonspiel, bon, il y a vous qui représentez d'autres gens de la communauté, et les frères Gabriel là, qui sont propriétaires de ce dépotoir.
Je crois pas que c'est une question de famille, c'est une question de principe des gens qui veulent avancer dans leur vie. Il y en a qui sont prêts à tout faire pour sortir de la pauvreté ou d'empêcher de voir leurs enfants frémir dans la pauvreté eux-mêmes. Mais ça débute comme ça. Puis ensuite, les partenariats questionnables qu'on voit souvent dans ce genre de développement-là, c'est ça qui est au détriment de la communauté.
Parlez-moi du dépotoir. Il est situé où? Il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est encore actif? Qu'est-ce que vous savez sur le fameux dépotoir?
Le dépotoir a débuté, premièrement, c'était supposé être un centre de recyclage de matériaux de construction sec. Mais ça, ça a dégénéré en ce qu'on voit maintenant. Il est situé à peu près... il est au nord-est de notre communauté. Près de la ville de Saint-Placide et notre communauté. Et puis, le centre de dépotoir, ce qui est devenu un dépotoir, était sûrement dû aux négligences fédéraux et provinciaux qui ont toujours nié les ressources nécessaires pour gouverner. Alors, je l'ai expliqué déjà dans le passé que nos sœurs communautés d'Akwesasne-Ganawagé ont ces ressources-là. Et ils ont beaucoup de succès à limiter les dépotoirs.
Mais qu'est-ce que vous auriez fait de différent avec les frères Gabriel qui refusaient la présence, par exemple, des pompiers, qui refusent de reconnaître le ministère de l'Environnement? Comment vous auriez pu vous assurer que ce site-là devienne sécuritaire?
Premièrement, c'est une problématique qui existe depuis 2011. C'était pas d'hier.
C'est vrai.
Et puis, on avait essayé d'arrêter le premier site qui était en plein milieu de notre territoire, dans un milieu résidentiel. Il y avait des centaines de camions qui venaient enfouir ici, puis on essayait avec fédéraux, provinciaux, municipaux, et personne ne voulait nous aider. Alors, c'est devenu un problème où il y avait de la violence qui commençait à dégénérer par rapport à ce site-là, le premier site. Et puis, j'ai décidé, il faut faire quelque chose. Personne ne veut nous aider. On est laissé à nos propres moyens. Il faut que j'arrive avec un compromis. Alors, j'ai fait appel aux exploitants. Un des frères Gabriel est venu me voir. On a raisonné un peu ensemble. Puis, j'ai dit que ça va cesser. Tu fermes le site immédiatement. Parce que là, la violence commençait parce j'avais dit au M. Gabriel qu'on avait identifié 10 compagnies qui allait enfouir. Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'on avait des gens autour du site, des résidents, qui étaient soupçonnés d'avoir donné les noms des compagnies au conseil. Et c'est là que ces gens-là avaient été visés. À ce point-là, j'ai dit, OK, ça va cesser. Je vais faire un compromis avec toi. Tu veux faire du recyclage de construction de matériaux? Pas de problème. On a un site, un membre vendre son terrain ici où est le dépotoir maintenant, et tu vas faire ça sous des règles strictes. On a fait un contrat, ils ont respecté aucune clause de notre contrat. On dépendait entièrement sur la province qui avait les ressources d'inspection et d'analyse d'eau, air, sol. On n'avait pas ces ressources-là. On dépendait totalement sur eux. Alors, ils ont fait des inspections au cours de l'exploitation. C'était merveilleux au début. Ça s'en allait dans la bonne direction. Et où ça l'a dérivé, je suis pas entièrement sûr. Mais on a essayé tellement de fois pour raisonner avec les gouvernements. Non, c'est pas notre problème. Bon, c'est ça qui arrive quand un gouvernement, surtout une Première Nation, n'a pas les ressources, c'est ça qui arrive.
Mais je comprends ce que vous me dites là. Mais en même temps, là, les frères Gabriel, ils ont l'air de faire ce qu'ils veulent dans le coin. La loi, l'ordre, ils ont ça entre les mains. Vous avez beau faire une entente, même avec vous, ils la respectent pas. Il y a de l'intimidation, vous le dites vous-même, il y a de la violence. C'est le crime organisé qui contrôle la place, là.
Je suis pas entièrement sûr de qui contrôle quoi. Je sais qu'on a un méchant problème en main. Les membres ici ont peur de marcher même dans des régions de notre communauté où c'était paisible dans le passé, puis là, on peut plus y aller parce qu'il y a des courses à haute vitesse à toutes les heures de la journée. On peut arriver à une mort soudaine dans le prochain détour, on ne le sait jamais. Mais ici, les gens, il y a certains membres qui agissent plus comme gangsters que comme membres de la communauté Mohawk. C'est ça qui est vraiment décevant. Puis si on avait les ressources, puis je vais continuer à le dire, des problématiques comme ça ne seraient pas arrivées. On aurait eu une communauté quand même assez paisible, comme Ganawake, Akwesasne, ont ces ressources-là, puis ils vivent relativement en paix.
Vous avez été expulsé du conseil de bande, puis réintégré par une décision de la Cour fédérale.
Oui, c'était encore de l'ingérence politique dans notre élection partielle. Comité d'appel ici ont fait une décision, ont dépassé leurs autorités avec le grand chef, parce que le grand chef a très peur que je revienne au conseil. Et puis, avec mon expérience, je suis capable de quand même de surveiller de très près, parce qu'il y a certaines choses qu'il fait, lui-là, comme lui, il nie absolument. On n'a pas besoin de corps policiers ici, on n'a pas besoin de ci ou de ça. On est capable de gérer ça nous autres-mêmes. Voyons donc. Les membres ont besoin de sécurité et lui s'ingère dans tous les dossiers puis nous bloque à tout bout de champ. Alors, assez, c'est assez, là. Puis la Cour fédérale m'a réintégré au conseil parce que ils ont vu sur la surface de la cause qu'il y a eu de l'ingérence. Ils n'ont pas suivi notre loi électorale. Pas moi. Alors, j'ai gagné avec 51% du vote et les gens continuent à essayer de bloquer le système démocratique.
Chef Simon, merci beaucoup. Très apprécié d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin.
Plaisir, M. Arcand.
Au revoir. Le chef Serge Otis-Simon, qui est membre du conseil de bande de Kanisetake.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, on apprend que plusieurs syndicats qui représentent des employés du gouvernement fédéral, on sait que le conflit est réglé, qu'il y a donc eu une entente, mais pendant la grève, on sait aussi qu'il y a des briseurs de grève qui ont été actifs. Et là, on apprend qu'il y a plusieurs donc syndicats qui tentent de savoir qui sont ces gens, qui sont les personnes qui ont franchi, et c'est pas juste une image, là, la ligne de piquetage, en ne faisant pas partie des services essentiels qui étaient prévus. Marc Brière est le président national du syndicat des employés de l'impôt. Monsieur Brière, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand, et je vais essayer d'être aussi intéressant que mon homonyme à la circulation.
Oui.
Je le salue d'ailleurs.
Ben là, la barre est haute, mais je fais confiance. Monsieur Brière, est-ce qu'on est parti dans une chasse aux sorcières pour savoir qui sont les scabs qui ont travaillé pendant la grève?
Ben écoutez, une chasse aux sorcières, c'est une façon de décrire ça, mais c'est une question d'être juste envers les membres qui ont participé à l'effort sur la ligne de piquetage pendant plus de deux semaines. Alors que certains, comme vous l'avez dit, ne sont pas des travailleurs essentiels, mais ont traversé allègrement les lignes de piquetage, souvent de façon virtuelle. Écoutez, on trouve ça tout à fait injuste. Ils n'ont pas participé, mais ils veulent bénéficier des avantages qu'on va obtenir dans la nouvelle convention collective.
OK. Dites-moi comment un employé a pu faire ça. Comment j'ai pu franchir la ligne de piquetage en étant à domicile?
Ben, c'est pas si compliqué que ça. Les gens ont juste à se rapporter à l'employeur et à se connecter virtuellement et faire du télétravail comme ils ont fait au cours des trois dernières années. c'est plus facile que celle d'été dans le bon vieux temps quand il fallait qu'il passe devant tout le monde.
OK, mais est-ce que la raison pour laquelle je pose la question, là, ça veut dire qu'il se branchait, que l'employeur était d'accord, puis que l'employeur savait que l'employé était en train de travailler?
Effectivement, il y a des mauvais gestionnaires qui les encouragent à faire ça aussi.
Est-ce qu'il y en a eu beaucoup, d'après vous?
C'est quand même un nombre limité. Écoutez, sur au-dessus de 37 000, 38 000 membres, je vous dirais au-dessus de 95 % facilement ont fait ce qu'ils devaient faire et participent à la grève. Mais il y a des moyens de traquer ceux qui ne l'ont pas fait. Et on reçoit beaucoup de dénonciations de membres, premièrement. Et nos sections locales travaillent d'arrache-pied présentement pour établir les gens qui, on pense, ont été des briseurs de grève.
OK, mais là, c'est un jeu dangereux, là. Les dénonciations, la délation des gens, je pense que... tu ne trouves pas que ça crée un bizarre de climat?
Effectivement, mais le climat a été créé par qui? Par les briseurs de grève. Écoutez, c'est sûr que nous, on va faire un processus sérieux, des enquêtes, des vérifications. On ne dira pas automatiquement parce que quelqu'un est rapporté que c'est un briseur de grève. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont en maladie. Il y a toutes sortes de situations qui arrivent, là. Mais je peux sûrement comprendre que les gens aient traversé une affectage, quand il y a une prestation de grève de la FPC. Notre syndicat, pour la première fois de notre histoire, notre syndicat d'un peu de l'impôt, on a rajouté une prestation supplémentaire. On a des sections locales qui ont des fonds de grève. Pas toutes, mais plusieurs. Et il y a un fonds de détresse de la SPC. On aurait jeté 1 million juste avant la grève dans le fonds de détresse pour aider les membres qui avaient des grandes difficultés financières.
Quelles sont les conséquences pour le membre qui a été briseur de grève?
Bien, s'ils sont identifiés, ce qui va arriver probablement, c'est au niveau local. Ils vont être stressés par leurs collègues. Moi, je peux vous dire que j'ai vu plusieurs gens qui sont fait carrément harceler pendant des années, ou ignorés surtout là, pendant des années. Ils sont tombés en maladie, ils ont quitté leur emploi, ou ils ont resté là, mais plus personne ne leur parle dans le reste de leur carrière, fait que c'est long. On peut suspendre leur statut de membre, donc ils vont continuer à payer des cotisations, mais ils ne recevront plus aucun service. Ils vont être votés sur des votes de grève d'athlète. À part ça, des pénalités financières, c'est difficile d'aller les chercher, mais on peut les imposer pareil, et s'ils ne les payent pas, on peut renouveler leur suspension de statut de membre.
Ah, OK, on va prendre ça par étapes. Je commence par les pénalités financières. Vous pouvez leur imposer des amendes de combien?
Ben écoutez, c'est les sections locales qui suggèrent les montants, mais ça peut aller jusqu'à, mettons, le salaire qu'ils ont gagné durant la grève, par exemple, le salaire brut.
OK. Si j'ai bien compris, là, en d'autres termes, vous allez écœurer la personne jusqu'à temps qu'elle saque son camp.
Non, je dirais pas ça.
C'est pas ben, l'exemple que vous m'avez donné, M. Briel, l'exemple que vous m'avez donné, là, c'est la personne qui se fait écœurer, isolée, tombe en congé maladie puis ne revient pas.
Ben écoutez, là, je vous parle d'expérience dans le passé, dernière grève en 2004 que j'ai vécue, mais ça, c'est des collègues de travail qui font ça, c'est pas le syndicat. On dirait pas ça normalement.
Monsieur Brière, là-dessus, là, oui. J'ai vu neiger, là, c'est les collègues qui font... Le syndicat est évidemment d'accord. Le syndicat va pas décourager ce genre de pratique.
Écoutez, je peux pas être d'accord avec des gens qui vont harceler des gens. Je peux pas, quand même, je peux pas faire ça, faut être raisonnable, mais ce que je vous dis dans la vraie vie, c'est ce qui arrive, c'est que ce sont leurs collègues qui sont en maudit après eux autres, qui peuvent leur faire vivre l'enfer ou, à tout le moins, les ignorer pour le reste de leur carrière. C'est souvent ça qui arrive.
Ah non, mais sérieusement, je comprends, moi, j'ai pas beaucoup de respect pour les briseurs de grève. Je comprends tout ça. Il y en a qui ont des raisons peut-être de le faire, puis comme vous dites, est-ce que la personne était malade en congé, est-ce que la personne... Bon, je peux, on peut en discuter. Mais moi, quand un syndicat part une chasse aux sorcières, m'explique qu'on, quand on va... pogner l'individu, il va y avoir des amendes. Puis malheureusement, ses collègues portés par cette frustration vont rendre le briseur de grève fou au point d'y faire perdre sa job puis qu'il s'en aille. On n'est pas loin de la terreur puis de l'intimidation, là.
Ben écoutez, je vous dis pas ça. Je dis pas que c'est ça qui va arriver. Je vous dis ce que j'ai vu par le passé, de vécu dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont frustrés, des membres. Mm-hmm. Le syndicat ne dit pas de courir après le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est d'identifier, suspendre leur statut parce qu'ils ne méritent pas d'être représentés parce qu'ils ont fait. Selon nos statuts et règlements de la FPC et du SEI, et de réimposer des pénalités financières. Ça s'arrête là pour le syndicat.
OK, mais allez-vous...
C'est pas fort par la suite. Écoutez, je leur dirais pas d'être gentil de leur amener un café le matin.
Non, mais allez-vous leur dire de pas commencer à les écœurer puis les rendre fous?
On dira rien là-dessus. On va laisser les membres vont faire ce qu'ils ont à faire, puis ils doivent faire attention, okay. Parce que s'ils vont trop loin, ils peuvent aussi se faire ramasser. On va prendre ça par l'employeur.
Puis vous allez les défendre?
Ben, c'est évident, il fait des cotisations, c'est les mêmes règles. Sauf que je n'encourage pas ça. Je veux qu'on soit clair, n'encourage pas. Vous m'avez posé une question, j'ai dit ce qui arrive dans la vraie vie par le passé, mon expérience passée des 25 dernières années.
Parfait. L'autre chose que je veux poser comme question, là, est-ce que c'est vrai que depuis le règlement, il y a eu des mises à pied à Revenu Canada?
Oui, effectivement, je suis content de vous poser la question. Je suis pas content, mais je suis content de me demander. Il y a 260 personnes qui ont vient d'annoncer que le contrôt, au lieu de finir en septembre, va finir le 26 mai. Ça, c'est au centre d'appel à Montréal. Et là, j'ai la confirmation de l'Agence du revenu qui s'apprête à annoncer à 1500 autres personnes à travers le pays, des contractuels des centres d'appel, qui vont perdre leur job d'ici la fin du mois de juin.
OK. Est-ce que ce sont des employés temporaires qui avaient été embauchés? C'était quoi le statut des gens là, qui se font virer?
C'est tous des contractuels, des employés à contrat. L'agence a embauché beaucoup pendant la pandémie, depuis le début de la pandémie, pour tous les programmes d'urgence, mais aussi pour les nouveaux programmes là, sur le logement et les soins dentaires. Là, la demande baisse et l'employeur parle de coupes budgétaires, sauf que je vous dirais que ça arrive, c'est cyclique, sauf que je trouve le timing un peu suspect, ça me laisse perplexe. Fait qu'on va certainement regarder nos options pour peut-être déposer une plainte de pratique déloyale. On commence nos votes de ratification d'ici une semaine. On va l'annoncer demain. Et puis, écoutez, ça va être si les membres ratifient l'entente de principe, on pourrait canner ça d'ici la fin du mois de juin. Okay. J'espère que l'employeur va avoir assez de respect pour ces employés-là. Ils ont bien servi pendant la pandémie pour les laisser au moins à l'emploi, pour qu'ils puissent au moins avoir droit à la prime, à la signature du contrat. Il faut que ce soit à l'emploi, puis c'est une prime de 2500$. Ça serait cheap, des sacs d'or une semaine ou deux avant.
À suivre. Merci beaucoup, M. Brière.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Marc Brière est le président national du syndicat des employés de l'impôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, on a vu ces chiffres rendus publics par Centraide. En gros, on peut dire qu'une famille ou un ménage montréalais sur cinq n'est pas capable d'avoir l'argent nécessaire pour ses besoins essentiels. Là, on parle de l'alimentation, on parle du logement. Et ça veut dire qu'avec l'inflation puis la hausse du prix de l'habitation, ben ces gens-là savent plus quoi faire. Et la meilleure façon de comprendre cette réalité, c'est de parler à des gens qui la vivent au quotidien. Je vous présente Naïma Neyman, qui est mère de famille, et elle vit dans le quartier Rosemont à Montréal. Madame Neyman, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand, ça va?
Bien, c'est à moi de vous poser la question. Vous, comment vous vous organisez?
Ça va très bien. Ça peut aller dans tous les cas.
OK. Parlez-moi un peu de votre famille. Vous êtes combien, puis quelle est votre situation actuellement?
On est deux adultes et deux garçons de 12 ans et demi et 10 ans et demi. Et mon conjoint, je suis une personne à mobilité réduite.
OK. Et vous, vous travaillez?
Oui, je travaille dans le communautaire, dans un organisme communautaire pour aînés à Rosemont.
OK. Et vous habitez le même logement depuis 2011?
Exactement. Ça fait 12 ans. En mois de juillet, on va entamer notre 13e année.
OK. Vous payez... D'abord, en 2011, c'était combien le loyer?
C'était 640.
OK. Puis actuellement, vous payez combien?
710.
OK. Puis là, on va vous demander combien?
Comment?
Ben, vous payez 710.
Oui.
Et là, ça veut dire que la prochaine augmentation aurait été de combien?
On n'est pas encore rendu là parce que c'était une reprise de logement. Mais c'est sûr que ça va rentrer dans les normes, bien sûr, s'il y a une augmentation de loyer. Mais c'est pas ce qu'on vit pour l'instant, malheureusement.
OK. Ce que vous vivez pour l'instant, c'est une expulsion, là. Une reprise de possession.
Oui, une reprise de logement, c'est sûr qu'on a gagné notre cause, mais c'est d'après ce qu'on a vécu avec notre propriétaire, malheureusement, c'est juste temporaire. Peut-être que d'ici le mois de juillet, il va sortir un autre prétexte pour le mettre dehors. C'est ça le but.
OK. Ça veut dire que si vous devez quitter votre logement et que vous êtes une famille de quatre, pour trouver, en termes d'espace, l'équivalent, vous pensez devoir payer combien à Montréal?
J'ai fait mes recherches pour un 4,5 comme celui. Celui-ci, ça coûte au moins 1 295 $.
Êtes-vous capable de payer ça?
Non. J'ai fait pas mal de calculs. À un moment donné, j'étais écœurée. J'étais tannée de tous ces problèmes-là. Je me suis dit, OK, je vais commencer à chercher ailleurs. Mais c'était vraiment catastrophique ce que j'ai trouvé comme prix de loyer. C'est comme je dis, partout, le minimum, c'est 1 295. Ça peut même monter à 1 500, juste 4,5.
Mais comment vous gérez votre budget? Là, actuellement, je comprends, votre loyer est abordable, là, mais comment vous gérez, pour une famille de quatre, vos dépenses?
Quand même, je peux m'en sortir de tout ça avec les dépenses mensuelles. Il n'y a pas juste le logement. Le logement, c'est juste un toit de... C'est comme ça représente la dignité pour nous. C'est la sécurité. C'est ce qu'on voulait. On ne demande pas plus que ça. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres dépenses avec deux enfants après ados. Il y a des choses qui sortent avec leur âge. Et il y a l'épicerie, il y a Hydro-Québec, le téléphone et tout ça. Mais je sors difficilement de le 30 de chaque mois.
OK, ça veut dire que chaque dollar est, comme on dit, analysé.
Et calculé.
Ouais.
Oui. Et analysé depuis le premier du mois.
Vous n'avez pas de marge de manœuvre?
Non. Alors, on ne peut pas dire que on peut épargner. Oublions ça. On ne parle pas de l'épargne. On parle juste comment vivre le mois dignement. Comment payer nos factures. Comment payer l'épicerie. Comment rendre toute la famille à l'aise. C'est ça qu'on vit pour l'instant.
Et c'est un phénomène relativement nouveau, c'est-à-dire des gens qui vivent serrés comme vous, mais qui travaillent. Ouais. C'est ça qui est un peu... Puis je comprends là, que vous avez une famille de quatre, votre conjoint est à mobilité réduite, mais vous vous présentez au travail tous les jours, puis à chaque mois, vous devez compter chaque sou.
Exactement. Il faut compter, il faut analyser, il faut savoir où mettre l'argent. Il faut répondre aux besoins essentiels d'abord. Et parmi les besoins essentiels, c'est le toit. Payer le premier du mois le logement. Comme ça, on se sent en sécurité. Parce que ce qu'on a vécu, malheureusement, avec cette affaire de reprise de logement, c'était l'incertitude, l'insécurité, l'intimidation, la discrimination, toutes sortes de choses qu'on veut pas vivre. Un être humain veut jamais vivre. On l'a vécu avec la reprise de logement. Mais quand même, on garde l'espoir, on garde le sourire, comme vous avez mentionné. Moi, je travaille du lundi au vendredi dans un centre communautaire pour aînés. Et j'ai jamais montré comme quoi je vis des problèmes. C'est sûr, quand j'en ai parlé de la reprise de logement, parce que quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai eu des astuces, j'ai eu des pistes à suivre, j'ai eu de l'aide. Mais j'étais toujours la même personne, Naïma, avant la reprise de logement, c'est Naïma. Après la reprise de logement, je suis toujours souriante parce que je ne veux pas pénaliser la clientèle avec qui je travaille.
Ben, bravo pour ce que vous faites et bon courage. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Naïma est mère de famille, donc elle est mère de deux enfants, son conjoint, mobilité réduite. Et c'est ça, je pense, qu'il faut illustrer. Tant qu'on a des chiffres et des statistiques sur la crise du logement, c'est bien, là. Mais de dire, OK, tous les mois, puis je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la même situation, vous dites, OK, c'est combien cette semaine pour l'épicerie, puis j'ai besoin de tant d'argent pour payer le logement. Puis quand vous avez un logement qui, pendant des années, vous a coûté un prix raisonnable, puis vous dites, je déménage, puis là, c'est 1200, puis 1300, puis 1400, comment on fait pour passer à travers ça?
L'essentiel de Paul Arcand.
Je vous amène maintenant en Afrique, au Kenya. Je suis ça depuis un certain temps. Il y a eu un article en fin de semaine dans le New York Times sur ce massacre. Il y a au moins, je dis bien au moins 200 victimes qui ont été exhumées. C'est un culte chrétien, c'est un pasteur apocalyptique, un ancien chauffeur de taxi qui est devenu une espèce de gourou, un messie, et qui a convaincu ses membres de se laisser mourir de faim. Et ça a été un long processus. Alain Pronkin est avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour Paul.
Bon, parle-nous d'abord de cette secte, de ce groupe religieux et de son leader.
Oui, cette secte-là, le leader, M. McKenzie, c'est un ancien baptiste ou un évangéliste qui a, comme on dit, il est devenu apocalyptique. Il dit, la fin du monde, ça s'en vient. La fin du monde, c'est proche. Jésus s'en vient pour nous juger. Donc, on doit se préparer. Et là, il a pris ses disciples parce que c'était un télévangéliste. Il y avait plusieurs milliers de disciples qui le suivaient. Il y avait sa chaîne YouTube. Et ils sont allés dans une région qui était près de l'océan Indien, au Kenya. Et là, il a dit à ces gens, ben là, on fait un jeûne total pour rencontrer Dieu. Parce que si on jeûne, on rencontre Dieu. Et juste pour que tu comprennes, dans son langage, il dit, il faut se crucifier. Et se crucifier, ça voulait dire quoi? C'est s'affamer, être prêt à s'affamer jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Et c'est comme ça, et les adeptes l'ont suivi. Et on a commencé à trouver, ça a commencé avec deux jeunes enfants qu'on a trouvés morts, et chez leurs parents, et là, la police, évidemment, a dit, écoutez, c'est peut-être toi qui as convaincu les mères de laisser ces enfants-là mourir, on l'a accusé, et il y a eu une libération conditionnelle en attendant son procès, et là, les corps ont commencé à ressortir, c'est arrivé un peu à la mi-avril, ça a commencé 10, 90, là, on était à 180 la semaine dernière, on est rendu à 200, et on recommence à exhumer des corps, on pense qu'il y a environ 600 disparus. Et ce qu'il y a de cruel, oui, il y a des gens qui sont morts de faim qu'on a identifiés, d'autres ont été étouffés avant d'être enterrés, d'autres ont été battus, et dans certains cas, il manque des organes. Et pour aller jusqu'à l'horreur extrême, parce qu'il semblerait que dans certains cas, il y en a qui ont été enterrés, parce qu'ils ont été enterrés par des gens de la secte, qui respirent encore.
Si j'ai bien compris, lui disait, ben, mangez pas, laissez-vous mourir de faim. Moi, je vais vous regarder mourir de faim et cet exercice-là va me permettre de rencontrer Jésus. Puis quand je l'aurai rencontré, ben là, à mon tour, je pourrai mourir.
Sans doute, oui. Et lui a déjà rencontré Jésus. Lui a déjà eu ses apparitions. Lui, ses apparitions, ils ont dit, il faut se préparer. Et là, évidemment, tout va parce que, écoute, t'es affamé. Sûrement qu'il y a du sexe, parce que ça, c'est un réflexe dans plusieurs sectes. On va affamer les gens, on va leur mettre des jeûnes. Écoute, dans certaines sectes, on appelle ça le respirianisme. Ça veut dire quoi? La lumière et l'air te nourrissent. On va jusque-là. On va couper les heures de sommeil. Et ça, on le voit dans plusieurs mouvements sectaires, comme je dis, apocalyptiques, là. Et c'est ça qui fait, lui, il a pris des terrains, il a revendu des terrains, lui, il a fait son argent. Quand on le voit comparaître, il est très bien portant au niveau, c'est pas quelqu'un qui manque de nourriture, là. Donc lui, il fait attention à lui, mais pas ses... Et il est pas le seul accusé, il y en a 26, parce que ses sbires qui sont avec lui, ils sont à peu près 26, qui sont aussi accusés, et là, tout y passe de meurtre, terrorisme, là. Toutes les accusations sont là. On s'interroge au niveau on interroge le gouvernement, comment ça se fait que vous avez laisser aller cette situation-là. Ils sont dans une région et tout le langage religieux existe. Ça veut dire que dans ce village-là qu'ils ont recréé, t'avais Jérusalem, t'avais Jéricho, t'avais Galilée. Et lui habitait en Galilée parce que Jésus habitait en Galilée.
Mais dis-moi, on a vu dans d'autres sectes, et là je pense entre autres à l'heure du Temple solaire où il y a eu une première vague, puis il y a des gens qui sont décédés. Et parmi les gens qui ont survécu, il y en a qui regrettaient de ne pas avoir, disons, fait le transit, pour reprendre l'expression de l'époque, là. Est-ce qu'encore tu penses de ces fidèles qui le suivent, qui l'appuient et qui regrettent peut-être de ne pas être morts comme les autres?
Ah, ça, c'est certain. Il y en a qui le regrettent déjà. Et ça, on le voit chez les Davidiens. On l'a vu dans plein de mouvements sectaires. Les gens regrettent. Et là, parce qu'il faut aussi voir, dans le pays voisin du Kenya, en Ouganda, il y a un pasteur, lui, qui avait barré les portes, il avait mis le feu. En ça, c'est en 2000, il y avait eu environ 700 morts. Donc, la réalité des sectes qui tuent tue énormément de personnes est réel au Kenya, et c'est pour ça qu'on accuse le gouvernement. Mais il y a beaucoup de gens qui disent non, le gouvernement est notre ennemi, le leader le dit. Les médecins, c'est pas bon. Les hôpitaux, c'est pas bon. L'école, c'est pas bon. Et même McKenzie disait, l'école, c'est pas bon parce que c'est pas dans la Bible.
Incroyable.
On est dans le délire à ce niveau-là, et les gens sont affamés, les gens ne dorment pas. Et on dit les fameuses milivudes, c'est les organismes qui surveillent les sectes en France, disent, écoutez, c'est là où les personnes sont totalement vulnérables et font une foi aveugle avec leur leader. Et leur leader, si on l'accuse, c'est Satan qui l'accuse.
Merci beaucoup, Alain. Toujours intéressant. Bien, Alain Fronkin, qui est un spécialiste des questions religieuses.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.